Bande dessinée en fugue, Fabrice Henriot et Thierry Saint-Saulieu.
Bonjour Thierry.
Bonjour Fabrice.
Nous voici devant un nouvel album, une nouvelle série qui vient de paraître, qui a pour intitulé Black Squaw, c'est le tome numéro 1 bien sûr, qui a pour sous-titre Night Hawk. Alors on n'est que dans des mots anglais, américains, anglophones, mais les auteurs sont tout à fait francophones. Il s'agit de Yann au scénario et d'Alain Henriet au dessin que nous avions déjà croisé pour une série précédente qui se déroulait non pas aux États-Unis, puisqu'effectivement là, l'histoire vient des États-Unis, mais se déroulait plutôt du côté de l'Allemagne. C'était Dents d'ours.
Yann, le scénariste, c'est une encyclopédie vivante de la bande dessinée de l'âge d'or, la BD franco-belge. C'est quelqu'un qui a une productivité, une inventivité assez remarquable. C'est quelqu'un qui aurait voulu scénariser Bogdani. Ça ne s'est pas fait pour des raisons de droit, j'imagine, parce que les ayants droit de Bogdani sont un peu sourcils. Enfin, c'est très compliqué, peu importe. Et donc, une de ses revanches, si j'ose parler ainsi, c'est d'avoir scénarisé il y a quelques années une excellente série qui s'appelait Dents d'ours, donc dessinée par Henriet, dont on va retrouver certaines caractéristiques dans Black Squaw. L'une des caractéristiques, c'est d'employer un personnage historique réel. Donc dans Dents d'ours, c'était trois enfants dans l'Allemagne nazie qui grandissaient, qui devenaient pilotes, et dont une jeune fille qui devenait pilote et un peu emblème de la Luftwaffe du régime nazi. Ce personnage avait réellement existé, elle s'appelait Anna Reitsch. C'était un des as de l'aviation nazie. C'est un personnage qui avait inspiré le personnage de Lady X dans Bogdani.
Charmante, mais pas très sympa, finalement.
Ne pacifiée. On va retrouver un personnage réel et historique dans Black Squaw. Alors, c'est un destin que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. C'est un destin phénoménal. C'est une aviatrice également, qui s'appelait Bessie Coleman. Alors, c'est quelqu'un qui partait avec un lourd handicap dans la vie, je le dis avec...
Oui, a priori, aucune chance de devenir aviatrice. Ça.
Une métisse amérindienne et afro-américaine. Amérindienne parce que son père était... Alors, là aussi, j'ai appris qu'il existait les Light Horsemen. C'était la police indienne. C'était une police à cheval qui s'occupait de seconder la police officielle, qui s'occupait plus particulièrement des minorités, oui, on peut le dire. Les mots sont un peu piégés dans ce type d'histoire. C'est quelqu'un qui va quitter le domicile familial parce que Bessie Coleman naît au Texas au début du siècle. Elle est, comme je le disais, amérindienne et afro-américaine. Donc,
l'État est très accueillant pour ce type de personne.
On est dans un contexte où on peut plutôt espérer survivre que vivre. Ce contexte raciste, ségrégationniste, son père ne va pas le supporter, il va quitter le domicile familial. Avec ses frères, elle va être élevée par sa mère. Et c'est quelqu'un dont on va découvrir qu'elle a une détermination, une intelligence, une ingéniosité absolument hors du commun. Elle va se mettre en tête, figurez-vous, de devenir aviatrice. À une époque où l'aviation est totalement balbutiante, c'est des morceaux de carton et de papier qui volent tant bien que mal. Quelque part, elle emploie une très belle image qui est reprise par Yann et Henriet, qui est que là-haut dans le ciel, la couleur n'existe pas. Tous les gens sont égaux. Voilà, elle se fixe un objectif d'émancipation et un objectif qu'elle va atteindre, étonnamment.
Et c'est la vérité, puisqu'elle est allée jusqu'en France pour apprendre à piloter.
Oui, la vraie Bessie Coleman. Alors, je dis la vraie Bessie Coleman parce que le récit qui nous est présenté, tel que je l'ai compris, prend appui sur la vie réelle de Bessie Coleman et la prolonge d'une façon très habile, très romancée et très prenante. Alors, est-ce que je vais révéler un scoop? Non, vous me dites, hein, vous me faites les gros yeux.
Je pense que tous ceux qui veulent se renseigner sur Bessie Coleman peuvent retrouver un certain nombre d'informations.
Voilà, en fait, Bessie Coleman va exercer mille et un petits métiers, elle va accumuler des économies, elle va prendre parce qu'il n'est pas question de devenir pilote quand on est noir aux États-Unis à l'époque. Il y a des écoles d'aviation en France. Elle va l'apprendre parce que ses frères ont été enrôlés dans l'armée américaine et ils ont fait connaissance d'Eugène Bullard, qui était un as de l'aviation. Eugène Bullard, qui était noir.
Le premier pilote afro-américain, oui.
Oui, ce qui est quand même très impressionnant. Donc elle se dit, c'est possible là-bas, d'autant qu'on lui dit qu'en France, la ségrégation n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est noir qu'on ne peut pas espérer mener la vie dont on rêve. Donc elle va traverser l'Atlantique. Elle va s'inscrire dans une école d'aviation. Dans un premier temps, elle est refusée parce que la première école où elle veut s'inscrire ne veut plus de femmes pilotes parce que deux femmes pilotes connues viennent de se tuer. Et à l'époque, l'aviation, c'était un sport, enfin une pratique extrêmement dangereuse. Elle va se former, elle va obtenir de brillants résultats, elle va devenir pilote. va retraverser l'Atlantique. Enfin, il y aura des voyages incessants dans sa vie pour acheter un avion, enfin trouver des fonds pour acheter un avion pour pouvoir voler. Et va devenir ce qui était pour beaucoup de pilotes en herbe, va se produire dans des shows aériens de l'ordre du cirque volant. Et c'est là que, oui, je le dis, elle va trouver la mort en préparant une exhibition. Donc elle meurt très jeune, elle meurt à la fin des années 20.
Pour une histoire vraiment stupide, elle va pas s'attacher en fait dans son avion.
C'est ça. Donc elle est éjectée de l'avion lorsque son avion se met en vrille. Et c'est là que se situe le début de l'album Black Squaw. Elle va devenir pilote, je vous le donne en mille. Alors là encore, je l'ai appris. Je passe mon temps à apprendre des choses en lisant de la bande dessinée. Elle va devenir pilote pour Al Capone, parce qu'on est à l'époque de la prohibition. Donc il faut faire venir de l'alcool pour le vendre dans les débits de boissons clandestins. Et l'une des façons de faire, c'est de le transporter par avion. Et donc Al Capone était à la tête d'une compagnie d'aviation, littéralement, avec des avions qui étaient traqués par les gardes-côtes.
En plus, il y a du vrai là-dedans, puisque le frère de Bessie Coleman a travaillé directement pour Al Capone. Il y avait un grand respect dans ce que j'ai lu, hein, entre Al Capone et puis les Noirs, les Amérindiens, enfin les Afro-Américains.
Oui, parce que, rappelons qu'Al Capone était un gangster aux méthodes expéditives, ça on ne le niera pas.
Mais qui venait d'Italie.
Mais oui, donc c'était aussi quelqu'un qui avait connu le sort des minorités, le mépris des Américains nés sur le sol américain. Il employait beaucoup d'Afro-Américains qui payaient très correctement, qui traitaient parfaitement bien, parce qu'ils sentaient, enfin, solidaire, c'est peut-être un mot trop fort, mais ils les respectaient, et eux le respectaient, du coup. Et donc, Al Capone était à la tête d'une compagnie d'aviation, littéralement clandestine, dont Bessie Coleman, dans Black Squaw, est un des pilotes, parce qu'il faut des gens qui n'ont peur de rien, qui sont prêts à tout. Parce que les gardes-côtes sont vigilants et canonnent les avions quand ils passent.
Et elle transporte le comptable d'Al Capone qui a de faux airs d'un comptable dans un film. Je ne sais pas si vous vous souvenez des Incorruptibles, Thierry.
Ah ben, votre érudition dépasse la mienne.
Oula, non, pas du tout. Si. Alors ça, je resterai très modeste face à vous.
C'est là que je disais qu'Yann, c'était une encyclopédie vivante. C'est qu'avec Henri, ils s'amusent à truffer leurs albums de clins d'œil, non seulement à l'histoire réelle, à l'histoire fantasmée, mais à la pop culture.
Alors, comme ça, on réinvente un petit peu l'histoire tout en nous la racontant. Et c'est très savoureux, même si ce premier album, moi, j'aurais tendance à dire que c'est en quelque sorte une mise en bouche. On attend avec impatience la suite.
Oui, on est comme dans la tragédie grecque, en quatre états, exposition, péripétie, catastrophe et catharsis. Là,
bravo.
On est dans l'exposition.
Alors, il y a à la fin de l'album des pages qui approfondissent le personnage, avec un certain nombre d'éléments que nous vous avons relatés. Comme vous le disiez, vous ne connaissiez pas Bessie Coleman, je ne la connaissais pas non plus. Ça donne vraiment envie d'en savoir plus sur des personnages de ce type.
Oui, parce que c'est ce qu'on disait en cours de chronique, c'est des gens qui ont pris en main leur destin, qui a priori n'avaient aucune chance de réaliser leur rêve, et pourtant, ils l'ont réussi. Alors, c'est, comme vous le disiez, c'est un album qui est un album d'exposition. Donc, on est dans le temps présent, au moment où Bessie Coleman est pilote pour Al Capone. Et par flashback successif, on va évoquer, en fait, son enfance et le contexte du Texas raciste où le Ku Klux Klan a droit au chapitre et c'est un euphémisme de ma part.
Tout à fait, il est très exposé, enfin il s'expose beaucoup.
Ce qu'on découvre, c'est qu'il faisait une propagande, il menait une propagande intense, y compris une propagande par avion. Et on voit un avion du Ku Klux Klan qui distribue des prospectus pour appeler à la suprématie blanche, enfin, et beaucoup d'autres choses que les lecteurs découvriront. Donc, comme vous le disiez, on est impatient de lire la suite et de voir comment Bessie va s'en sortir dans cette fiction qui est, je le rappelle, une façon de broder sur la réalité qui est d'une habileté assez folle et assez remarquable, avec un dessin qui est très clair. On est dans la ligne claire à la Spirou, mais c'est pas péjoratif de ma part. C'est une façon de raconter, comme disait Hergé, la ligne claire, c'est la clarté dans le dessin, mais c'est aussi la clarté dans le récit. Et c'est du travail à l'ancienne, quoi, d'une façon à l'ancienne, dans le très très bon sens du terme.
Et puis avec des couleurs qui sont en référence évidemment avec le sujet, hein, ça c'est clair. Je me permets encore un dernier clin d'œil, certainement voulu, en tout cas c'est comme ça que moi j'ai perçu les choses, mais je pense que Yann et Henriet ont souhaité aussi orienter le portrait de Bessie Coleman, alors purement physiquement, vers une chanteuse ultra célèbre qui n'est pas afro-américaine, enfin ça dépend jusqu'où on étend le territoire, mais qui vient des Barbades, si je ne me trompe, une certaine Rihanna. Franchement, je trouve que là, la correspondance est très très marquée. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la musique que vous écoutiez, Thierry, hein, il me semble. Pas vraiment.
Je connais de nom, je ne me prononcerai pas, ce n'est pas mon domaine de compétence du tout.
Pourtant, vous appréciez les jolies filles.
Yann et Henri aussi. Yann qui collabore avec Romain Hugo dans une autre série, dans d'autres séries d'aviation. C'est vrai qu'il y a une tradition de la pin-up.
Voilà.
Qui n'est pas réducteur. Hein. La pin-up, c'était ce qui permettait aux pilotes américains de tenir dans des conditions où leur durée de vie était très limitée, donc il fallait se raccrocher à un idéal de beauté et puis de sensualité.
Au-delà de la pin-up, je ne crois pas d'ailleurs que Bessie Coleman en était une, mais au-delà de cela, eh bien, c'est un vrai destin qui nous est raconté ici. Merci Thierry, on se retrouve bientôt pour d'autres lectures dans un autre registre.